Écoutez, c'est étrange parce que on s'était absolument pas, on n'avait absolument pas préparé cette intervention, et finalement, ça va parfaitement dans le sens de ma réflexion sur Satan. Parce que je suis parti de la question qui était posée ce soir, c'est-à-dire pourquoi Dieu nous tente-t-il ? Ce qui est une formulation à nouveau très intéressante et aussi très intéressante, parce qu'on a plutôt l'habitude de penser, ou on pourrait penser que la tentation est du côté du diable. Or, dans la Bible, dans l'Ancien Testament, s'il y a un épisode vraiment pertinent de tentation, hormis évidemment le cas du jardin d'Éden, du péché originel, c'est dans le livre de Job, où le moins qu'on puisse dire, c'est que Dieu et le diable se tendent la main pour tenter Job. Hein, c'est comme ça que commence le livre de Job. C'est d'ailleurs quelque chose que Rodin a parfaitement compris, a parfaitement illustré, puisqu'il a fait deux sculptures qui s'appellent « La main de Dieu » et « La main du diable ». Et si vous allez les voir au musée Rodin, c'est pas très loin d'ici, c'est dans Paris, vous verrez que finalement elles sont assez ressemblantes, ces deux mains. Le Talmud dit même que, à propos de ce début donc du livre de Job, où, vous le savez, le diable vient voir Dieu, hein, on résume, et lui dit, cet homme Job qui t'adore et qui est vraiment intègre et droit, si tu le remues un petit peu, il cessera de croire en toi. Et le Talmud dit c'est très audacieux, parce que si ce n'était pas écrit dans le texte, on n'oserait même pas penser cela, disent les talmudistes. Mais à partir du moment où c'est écrit dans le texte, on est obligé de le penser, c'est une obligation. Ils disent même, Dieu donne l'impression d'être un homme qui se laisse influencer par le diable, au tout début du livre de Job. Donc, cette question de la tentation, comme si finalement le livre de Job commence par le fait que Dieu est tenté par le diable, se laisse influencer par le diable. Cette question de la tentation, me semble-t-il, peut se résumer en grande partie à la question du regard, de l'œil, des yeux. C'est quelque chose qui revient tout le temps dans le livre de Job. Il y a même un... Alors, on pourrait multiplier les citations dans le livre de Job. Si vous lisez le livre de Job, c'est quasiment un petit roman très, très, très bref qui se lit assez vite. Vous verrez qu'il est toujours question, sur divers modes, de l'œil, du regard, de la vision, etc. Il y a, par exemple, un passage particulièrement intéressant, qui est le chapitre 28 du livre de Job. C'est le discours d'un des... Non, non, mais c'est... C'est le discours d'un des amis de Job, qui s'appelle, en français, Sophar de Naama, et qui va, en gros, pour aller vite, lui expliquer que l'homme tente de porter son regard partout pour découvrir la sagesse, mais que la sagesse est invisible, et que l'homme essaye de voir, de faire se dévoiler toutes les richesses du monde, mais que la sagesse étant invisible, il ne la trouvera pas là où se trouvent les autres richesses du monde. Il dit, l'homme ouvre des tranchées dans les rochers, et son œil contemple tout ce qu'il y a de précieux, dit ce Sophar de Naama à Job. Or, Sophar de Naama, moi ce qui m'a intéressé, c'est que son nom signifie en hébreu ça se dit déjà, Sophar à Naamati, et Tsafar, c'est le sifflet, le sifflement. Ça peut être aussi le hurlement de la sirène, hein, au sens moderne, au sens d'une sirène de pompier. Et Naama, à Naamati, ça signifie ce qui est mélodieux. Noémie, par exemple, le prénom Noémie signifie la mélodieuse. Donc c'est un sifflement mélodieux qui vient parler à Job et qui vient lui dire, si tu cherches la sagesse, ce n'est pas avec tes yeux que tu la trouveras. Hein ? Il y a d'autres, comme vous le savez, en hébreu, on peut toujours trouver, comme ça, il y a toute une arborescence de signification. Par exemple, ça peut vouloir dire aussi, donc le nom de cet homme-là, Monsieur Sifflet, sifflement mélodieux, Sophar de Naama, s'appelle également Monsieur Matin, agréable, parce que Tsefer, c'est le matin, et Naama, c'est ce qui est mélodieux, ce qui est agréable, ce qui charme. Ou encore couronne, Tsefer, ce qui moi m'a beaucoup plu, puisque couronne en grec se dit, comme vous le savez, Stéphanos. Donc c'est en gros, ce monsieur s'appelle la couronne agréable, ou le sifflement agréable. Et donc il vient dire que la sagesse ne se trouve pas, ne se découvre pas avec les yeux. Or, à partir de là, j'ai essayé de me demander ce que c'était que le diable. Eh bien, je me suis dit, le diable, c'est finalement l'inverse de ce qui est en train d'expliquer ce sifflement mélodieux. Le diable, c'est celui qui vous en veut précisément de détourner vos yeux, de détourner le regard. C'est celui qui refuse qu'on puisse détourner le regard. D'une certaine manière, le diable est au principe même de l'impudeur, de ce qui s'oppose à la pudeur consistant à détourner son regard. Qu'est-ce que c'est que l'impudeur ? C'est un ressentiment qui vous intime de croire à ce qu'elle exhibe. L'impudeur, c'est cela. L'impudeur vous en veut de ne pas la regarder. L'exhibition. Alors, à partir de là, si on part de cette définition, si on pose, comme disait Philippe Sauvert, cette définition du diable, le diable, est-ce qu'il vous en veut de détourner votre regard ? À partir du moment où vous détournez votre regard, le diable va s'acharner sur vous. Par exemple, si vous cessez de croire un instant à l'existence de la société, le diable va se métamorphoser en société pour pourchasser votre propre incrédulité. Pour le dire autrement, donc le diable est du côté évidemment de la crédulité maximum. Et à partir du moment où vous êtes un peu incrédule, où vous tentez de battre en brèche cette crédulité, le diable vient s'acharner contre vous pour essayer de colmater votre propre crédulité. Alors pour le dire autrement, si Dieu nous tente, puisque dans le Notre Père, on dit à Dieu ne nous soumet pas à la tentation, le diable, lui, nous attente. Il est l'incarnation, si l'on peut dire, d'un attentat perpétuel à la pudeur. C'est celui qui attente à notre pudeur. Alors, pourquoi Dieu nous tente-t-il ? Maintenant, on peut commencer de répondre. Eh bien, parce qu'il nous attend. Et pourquoi Dieu nous attend-il ? Eh bien, parce qu'il nous précède, par définition. De même que dans le désert, la colonne de nuée précède les Hébreux dans leur pérégrination. Dieu, donc, d'une certaine manière, est la tension même du temps. Dieu attend, Dieu est donc la tension du temps qui attend, et c'est pour cela que Dieu n'est pas tendre. C'est parce que Dieu est temps qu'il n'est pas tendre. Hein, c'est connu que le Dieu de la Bible n'est pas quelqu'un de particulièrement facile à fréquenter. Donc on a d'un côté Dieu qui serait, pour le condenser au maximum, la tentation de l'attente, tandis que le diable serait du côté de la tentation avec un L apostrophe, de ce qui attente à notre pudeur, mais ce qui est aussi du côté de la violence, de l'attentat. Hein, nous sommes dans une période, pourrait-on dire, très diabolique, parce qu'il y a beaucoup d'attentats. Des attentats qui prennent forme, qui sont les attentats fanatiques, et le diable est souvent du côté du fanatisme. Une première définition du diable, en tout cas. Et qu'est-ce que c'est que la tentation, avec un L apostrophe, donc du côté du diable ? Eh bien, c'est le contraire de l'attente. C'est l'impatience. Le temps, Dieu étant temps, Dieu est du côté de la patience. Le diable, lui, serait plutôt du côté de l'impatience. Vous savez, j'essaye de diviser les choses, hein, de voir de quel côté est Dieu et de quel côté est le diable. De distinguer. Pourquoi le diable est-il impatient ? Eh bien, tout simplement parce que le diable, on va tenter de le prendre par un autre biais, une autre définition du diable, c'est... Il est celui qui nie que les choses puissent arriver au moment où l'on s'y attend le moins. C'est pour ça qu'il est impatient. Il veut que les choses arrivent. Donc il nie que les choses puissent arriver au moment où l'on s'y attend le moins. Donc par définition, qu'est-ce que c'est que les choses qui arrivent au moment où on s'y attend le moins ? Eh bien, on appelle ça d'un nom beaucoup plus formel. Ça s'appelle le messianisme, tout simplement. Le Messie est celui qui arrivera quand on ne s'y attendra pas. Peut-être qu'il est déjà arrivé dans le christianisme au moment où on ne s'y attendait pas trop. Et il est reparti, et il va revenir, d'un point de vue de la théologie chrétienne. Et Dieu, lui, alors, qu'est-ce qu'il tente, qu'est-ce qu'il teste à travers notre patience ? Le diable, lui, est du côté de l'impatience, il teste notre impatience, ou il est impatience. Dieu, lui, il tente, il teste, il met à l'épreuve notre propre vitesse. Parce que l'impatience, paradoxalement, est du côté de la lenteur. Tandis que Dieu est du côté de la vitesse. Alors, je vais vous prendre un exemple, j'en ai des centaines d'exemples dans la théologie juive, on va en prendre un très simple que tout le monde connaît, c'est que le Christ est à la fois le Fils et le Père de sa propre mère. Alors, si ça ne s'appelle pas un raccourci fulgurant, si ça ne s'appelle pas être très rapide, qu'être à la fois le Père et le Fils de sa propre mère, je ne sais pas ce que c'est qu'être rapide. Donc vous voyez, par définition, le Christ qui est Dieu, donc, est d'une rapidité extraordinaire. Revenons au diable. Le diable, lui, je disais tout à l'heure, est du côté de la crédulité, de l'impudeur, de la crédulité. Alors, prenons un cas de crédulité, vous avez de crédulité absolue, maximum, au sein de l'humanité, on va prendre le cas de la mort, tout simplement. La mort ne va exister, vous savez que le diable est plutôt du côté de la mort, enfin, traditionnellement, habituellement, on va voir si c'est vrai ou pas, mais si on part de cette définition-là, la mort n'existe qu'autant que l'on n'y croit pas. Si vous cessez de croire à la mort, de nouveau, selon un principe diabolique, elle va se mettre à s'acharner sur vous. Ou plus précisément sur vos descendants, puisque c'est par ses descendants qu'on échappe à la mort, c'est en procréant qu'on devient immortel. Et c'est ça toute l'histoire du livre de Job. On ne sort pas du tout du sujet. Dieu va dire à Satan, au diable, tu peux aller faire tout ce que tu veux avec Job, mais ne touche pas à son propre corps pour le tenter. Et donc, le diable va s'acharner sur les enfants de Job. Et il va tuer tous ses enfants, son bétail d'abord, ses enfants, etc., toutes ses richesses. Et ses enfants vont ensuite renaître, c'est-à-dire il va avoir de nouveau des enfants en un nombre encore plus important. Donc c'est toute cette question de la procréation dans le livre de Job. Et bien c'est aussi toute la démonstration du Christ. Pourquoi le Christ a-t-il dû mourir? C'est mon interprétation personnelle, évidemment. C'est parce qu'il a refusé de rendre un culte à la mort. Et ce n'est pas la même chose que de croire en la mort et de lui rendre un culte. L'humanité ne croit pas à la mort. Elle veut ne pas croire à la mort. Et c'est pour ça que l'humanité ne cesse de rendre culte sur culte à la mort. Ce qui est logique, puisque cette incroyance n'est que l'autre face de la crédulité. Il faut être très crédule, finalement, pour croire à la mort. Et celui qui refuse de croire à la mort vient s'acharner sur lui. Hein. Je respecte toujours la même logique. Toute la logique de ce qu'on a appelé la société du spectacle, qui est une expression qui commence à être assez connue, de ce que l'écrivain Guy Debord appelait la société du spectacle, est dans ce déni renforcé de la mort. L'image sert à cacher la mort. Mais en même temps, la mort n'est que l'envers de l'image. La mort s'avance masquée, si vous voulez, dans notre société d'image. Elle s'avance imagée, plus exactement. Et donc, cette mort, qui n'est que le reflet de la crédulité la plus extrême, s'est mise en travers du Christ, hein, par la tentation dont nous a parlé Philippe Salers tout à l'heure, précisément parce qu'il se détournait d'elle. Le Christ est tout de même celui qui ressuscitait les morts, qui a ressuscité Lazare. Alors ça ne plaît évidemment pas beaucoup au diable, ça ne plaît pas en tout cas à la mort, disons, pour être plus simple. Tout cela évidemment orchestré par Dieu, qui a tenté le Christ parce que c'était son fils, c'est ça toute la question. Parce que sinon, d'une manière générale, Dieu s'en fout plutôt. Ce serait une grande crédulité que de croire que Dieu passe son temps à nous tenter. C'est pour ça qu'on dit « ne nous soumets pas à la tentation ». Vous voyez ? Sinon, on aurait pu dire « ne nous tente pas ». Alors, il y a un autre épisode dans la Bible de tentation par procréation. Parce que dans le livre de Job, je vous ai dit qu'il y a à la fois le grand livre de la tentation et de la procréation, ou de la question de la procréation, qui pose la question de la procréation. Il y en a un autre, très intéressant, et qui est aussi en rapport avec le Christ. Vous voyez, j'essaye de faire jongler tout ça ensemble, de faire tenir tout ça ensemble en l'air. Ça tient très bien, en général. C'est au tout début du livre de Samuel, c'est la rivalité qu'il y a entre deux femmes, d'un homme qui s'appelle Elkana, qui sont Anna et Pénina. Et Anna est une femme stérile, qui n'arrive pas à avoir d'enfants, et Pénina est une femme qui a énormément d'enfants, enfin qui arrive très facilement à avoir d'enfants. À l'époque, il n'y avait pas de monogamie, donc cet homme Elkana avait deux femmes. Et Pénina ne cessait de provoquer Anna en lui disant « Tu vois, toi tu n'as pas d'enfant et moi j'ai des enfants de notre mari commun. » Or, dans le livre de Samuel, cette femme Anna va aller prier et elle va finalement obtenir, un peu comme Sarah, un peu comme ça arrive souvent dans la Bible, d'avoir un enfant, et cet enfant va être Samuel, le fameux prophète Samuel qui lui-même va être le premier à oindre le futur roi David et donc à assister et à provoquer l'émergence du premier Christ, du premier Messie de la Bible. Donc, on voit que toute l'histoire, toute la généalogie du Christ provient d'une question de tentation sur la procréation. Une femme qui provoque une autre, qui tente une autre, et qui dit, tu vois bien, toi tu n'arrives pas à avoir d'enfant. Elle va avoir un enfant, et cet enfant va aller consacrer, ou oindre plus exactement, le roi David, dont le Christ va descendre. Alors revenons au diable maintenant. Il y a évidemment des développements théologiques extraordinaires sur toutes ces histoires, mais on va essayer d'aller un peu vite. J'ai dit tout à l'heure que le diable, c'était ce qui était au principe même de l'impudeur, de l'impudicité. Et c'est pour ça qu'il y a quelque chose de proprement diabolique, dans ce sens-là, dans la société actuelle, qui est la société du spectacle, c'est-à-dire pour le dire très schématiquement et très rapidement, la société de l'exhibition des images. Alors dans la Bible, il y a plusieurs exemples d'impudence qui sont punis, d'impudicité qui sont punis, d'exhibition si vous voulez, de spectacle, hein, vraiment au sens propre, au sens tout simple de se donner en spectacle, qui sont punis par Dieu. C'est par exemple l'histoire d'Onan. Onan, le premier onaniste de l'histoire, est celui qui refuse d'aller procréer avec sa belle-sœur. Et donc, qui va aller se masturber pour ne pas avoir à coucher avec sa propre belle-sœur, alors que c'est la loi biblique. Et donc, c'est, si on veut, c'est le premier exemple de cynisme au sens propre, puisque l'un des grands cyniques de la Grèce antique, Diogène, était connu pour se masturber en public. C'est raconté par Diogène Laërce. Donc c'est pas une invention. Donc celui qui se masturbe en public, qui s'exhibe en public, comme ça, vraiment un exhibitionniste, qui se donne en spectacle, est puni par Dieu dans la Bible. Ce qui nous amène, toujours en essayant de suivre les linéaments de ce que serait le diable, le diabolique ou la diabolicité, ah, évidemment c'est quelque chose qui est très actuel, hein. On m'a demandé d'essayer de parler un petit peu de ce qu'il y a de diabolique dans la société actuelle. C'est la pornographie généralisée de notre époque, de notre société. Et qu'est-ce qui caractérise la pornographie? Alors c'est évidemment le fait qu'elle se donne en spectacle. Mais si vous allez voir un film porno, par exemple, le leitmotiv de la pornographie, de l'exhibition pornographique, c'est le fait qu'on montre l'éjaculation du héros. Ce qui n'arrive pas, en général, dans la nature, j'allais dire, ou dans la vie privée. Ou en tout cas, ce qui s'oppose, disons, ce qui n'arrive pas, puisque par définition, personne n'est là pour le regarder. Ou en tout cas, pour dire les choses plus simplement, ça ne se fait pas à la lumière artificielle, si vous voulez. Et évidemment, le fait que le héros, dans un film pornographique, soit... C'est une règle d'or, c'est presque une loi intangible des films pornographiques, de la pornographie, c'est qu'on doit voir le héros éjaculer, toujours. Donc, par définition, on doit voir le héros se refuser à la procréation. Vous voyez, le héros doit être onaniste. Le héros, je veux dire, l'acteur d'un film porno doit être onaniste. Or, c'est en ce sens que la pornographie, et maintenant vous pouvez le prendre au sens le plus général du terme, est diabolique, c'est qu'elle ne sert qu'à prouver l'irréalité spectaculaire du principe de procréation. On exhibe cette déprocréation, cette non-procréation, parce qu'on s'y oppose. Et d'un autre côté, donc, qu'est-ce qui s'oppose à cette éjaculation exhibée et donnée en spectacle? C'est évidemment l'intériorité de la prière, qui est, vous le savez sans doute, que l'on appelait autrefois une jaculation, c'est-à-dire quelque chose qui jaillit vers le ciel. Donc d'un côté, éjaculation en spectacle à la lumière, devant les caméras ou devant le regard de tout un chacun, et de l'autre côté, prière qui s'élance directement vers le ciel, qui jacule vers le ciel, c'est un terme de la langue française, hein, c'est pas un jeu de mots du tout. Donc le film porno, pour dire les choses plus simplement, est là pour nous expliquer que finalement, la procréation doit et peut se faire à la lumière artificielle. C'est même un terme tout simple qui est aussi très en vogue aujourd'hui, pas un terme, une réalité qui est très en vogue, c'est ce qu'on appelle la procréation artificielle. La procréation artificielle, qui est vraiment une des inventions majeures de notre époque, s'oppose à l'obscurité naturelle de la procréation humaine, par définition. Quand deux êtres humains procréent naturellement, il n'y a pas de caméra pour voir ce qui se passe. C'est ce que les mystiques appellent peut-être la nuit obscure. Hein ? Saint Jean de la Croix a fait tout un livre qui s'appelait La nuit obscure. Voilà. D'un côté, on a la procréation naturelle, la nuit obscure, de l'autre côté, la procréation artificielle, la lumière artificielle. Bon. Et pourquoi, je vais en terminer avec cette histoire-là, pourquoi le diable s'en prend-il à la procréation naturelle ? Puisque le diable serait du côté de la procréation, si vous avez suivi le raisonnement, le diable serait du côté de la procréation artificielle. Pourquoi ? Eh bien, c'est tout simple. La procréation naturelle, c'est-à-dire ce que font les hommes depuis des milliers d'années, eh bien c'est parce que la procréation naturelle risque de donner naissance à un écrivain. C'est quelque chose qu'a dit Stéphane, un autre Stéphane encore, c'est un hasard, Mallarmé, dans un sonnet de jeunesse, mais qui était déjà un sonnet merveilleusement théologique, si vous voulez, qui ne porte pas de titre d'ailleurs, ça se termine ainsi, « Et de ce qu'une nuit sans rage et sans tempête » ces deux êtres, il parle d'un père et d'une mère, se sont accouplés en dormant, et tout est là, c'est en dormant qu'ils sont accouplés, donc pas en pleine lumière. Ô Shakespeare et toi Dante, il peut naître un poète. Vous voyez ? Ce qu'on peut résumer en disant que toutes les techniques qui vont de pair avec la procréation artificielle ne sont que des avatars de la censure. Elles sont là, elles ont été inventées, elles n'apparaissent, elles ne se multiplient, elles ne sont légion aujourd'hui qu'afin de tenter d'éviter et de mettre un terme, de juguler la naissance possible, aléatoire, évidemment rarissime, d'un Shakespeare ou d'un Dante. Comme quoi, prenons un autre exemple de crédulité apparente, comme quoi l'idée que le diable serait du côté de la femme, hein, c'est une idée assez banale, on dit la femme c'est la tentatrice par définition, c'est ridicule, c'est absurde, parce que s'il y a bien un sujet, je prends toujours ma définition du diable, le diable est du côté, et vient là où il commence à avoir un peu d'incrédulité, parce qu'il déteste l'incrédulité, il est attiré par l'incrédulité, puisque le diable est l'incrédulité. Donc, le diable n'est pas du côté de la femme, parce que s'il y a bien une question, une affaire qui résiste à l'incrédulité, donc qui est du côté de la crédulité maximum depuis des millénaires, c'est aussi la femme. C'est ce que démontre toute l'affaire du péché originel. Le diable se ferait femme pour qui cesserait de croire à la femme, toujours selon ma définition de tout à l'heure. Le diable, c'est celui qui vient quand vous cessez d'y croire. Et comme c'est bien connu que c'est rare de ne pas croire à la femme, ou de ne pas croire aux femmes. Ça a pu arriver à quelques saints dans l'histoire, mais c'est assez rare. Donc le diable n'est pas du côté de la femme, en général. Il y a eu un auteur qui a imaginé que les femmes puissent se mettre à croire en leur propre existence. Vous savez que Lacan, le psychanalyste célèbre, disait « la femme n'existe pas ». Il y a un auteur de l'Antiquité qui a imaginé que les femmes pourraient croire en leur propre existence, c'est Aristophane. Vous voyez, depuis tout à l'heure, on reste d'un point de vue de la mélodie dans les Tsophares, Stéphane, Aristophane, etc. C'est toujours la même chose. Et Aristophane a écrit un texte, une pièce qui s'appelle « L'Assemblée des femmes », dans laquelle les femmes, en gros, se mettent à croire à leur propre parthénogenèse politique. Elles imaginent qu'elles puissent être indépendantes, ce sont les premières féministes de l'histoire et peut-être de la littérature. Et alors, comme par hasard, à partir du moment où les femmes commencent à s'organiser et à vouloir se débarrasser des hommes, ou à vouloir s'organiser, s'émanciper des hommes, l'impudicité apparaît dans le discours. C'est ce que dit l'héroïne de cette pièce d'Aristophane. Elle dit « J'entends faire de la ville, c'est son programme politique, j'entends faire de la ville un seul foyer en brisant toutes les clôtures, sans aucune exception, qu'on puisse aller et venir de tous chez tous. » Ah, vous voyez comme c'est extraordinaire. On est immédiatement dans l'impudeur, l'abolition de toute vie privée, si vous voulez, de toute privauté. Et c'est quelque chose d'assez important, parce que c'est une farce, apparemment Aristophane est un poète comique, mais il y a un autre philosophe qui s'appelle Léo Strauss qui a dit que l'Assemblée des femmes d'Aristophane et la République de Platon, c'est la même chose. C'est quelque chose de très sérieux, et que Aristophane est très proche de Platon dans sa République idéale, tel qu'on l'interprète habituellement. Et il dit d'ailleurs, ce qui fait se lier les deux, Aristophane et Platon, c'est que le comique, précisément, réside dans une certaine impossibilité traitée comme possible. Parce que c'est impossible, évidemment, d'imaginer que des femmes puissent se mettre en assemblée et disent on va se débarrasser des hommes. Hein. Et de même que la République de Platon est, elle aussi, impossible. Il dit, c'est là qu'est le comique. C'est pour ça que Platon, c'est un auteur comique. Et il dit ça très sérieusement, ce Léo Strauss. Ce qui nous ramène au diable, ce qui nous ramène plus exactement au rire du diable. Pourquoi le diable rit-il ? Oui ? Pardon ? Ah bon, d'accord. J'abrège alors, excusez-moi. Le diable est du côté du rire parce que le diable est celui qui réalise l'impossible. Et la société actuelle n'est autre, finalement, que l'impossible réalisé. C'est-à-dire, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure et pour citer, je terminerai presque là, Guy Debord, donc, qui est celui qui a le mieux pensé cette société du spectacle. La société contemporaine est la société où la mort a commencé par représenter la vie, le vivant, et l'a si bien représentée qu'elle s'est mise à en absorber toute la substance, et elle en a si bien absorbé toute la substance qu'elle a pris la place de la vie. Jouer le spectacle de la vie pour pouvoir remplacer la vie. Alors, je vais terminer, il y avait d'autres considérations, mais bon, c'est pas important. Je vais terminer par une citation de saint Paul, si vous voulez, à propos de la tentation, qui dit que nul n'est tenté au-delà de ce qu'il peut supporter. Eh bien, ça signifie, en toute logique, finalement, que les grandes tentations et les plus grandes tentations ne sont réservées qu'à ceux qui ont les plus grandes aptitudes. Et ça, c'est un autre aspect du diable qu'on pourra évoquer une autre fois, si vous voulez.